À 16h50, cher Raphaël, décision choc de la Cour suprême des États-Unis aujourd'hui. C'est la troisième, si on peut dire, qui rend probablement très malheureux les ultra-conservateurs. Décision qui invalide une loi controversée de la Louisiane sur l'avortement.
Oui, ben permets-moi, Marc-Claude, de peut-être commencer en parlant de la loi en question, pour comprendre la portée du jugement. Qu'est-ce que disait la loi de la Louisiane en question? Loi sur l'avortement, très controversée, passée en 2014, qui disait que si vous étiez, par exemple, un médecin qui voulait pratiquer un avortement, ça vous prenait ce qu'on appelle des droits d'admission dans un hôpital se situant dans un rayon de 30 000, l'équivalent d'une cinquantaine de kilomètres ou moins du lieu de l'avortement. Autrement dit, vous êtes médecin, vous voulez faire un avortement, il faut que vous ayez le droit d'admettre des patients dans un hôpital proche de là. C'est ça que ça veut dire. Mm-hmm. Concrètement, disons-le franchement, là, l'objectif, c'était de restreindre l'accès à l'avortement en imposant des nouvelles restrictions de nature géographique. Donc, ben c'était oui, ça que la loi voulait faire.
Oui, parce que ça allait fermer deux des trois cliniques d'avortement.
Et c'est drôle que tu dises ça. Je pense que c'est important de peut-être peser sur pause une seconde pour rappeler aux gens qui nous écoutent à quel point l'avortement, même s'il est légal dans beaucoup de régions aux États-Unis, n'est pas facilement accessible. Mm-hmm. Il faut pas penser que c'est dans tous les hôpitaux puis toutes les cliniques qu'on peut avoir un avortement. Donc, ça peut être légal officiellement, sans que ce soit nécessairement très accessible. Donc, tu as raison de le mentionner, l'accès était déjà limité dans cet état-là, et là, cette loi-là, presque assurément, l'aurait restreint encore plus. Donc, la Cour suprême américaine rend un jugement ce matin disant que cette loi-là va trop loin. Elle est inconstitutionnelle. Jugement de 5 contre 4. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, Marie-Claude. À la fin de la semaine dernière, je t'avais promis qu'on se parlerait la décision de la Cour qui s'en venait en début de semaine. Je t'avais dit lundi, on va se parler d'avortement. Oui. Mais là, c'est tombé. Je m'attendais à une décision 5 contre 4. Je ne savais pas de quelle barre ça allait basculer. Là, on a la réponse. Où c'est extrêmement intéressant et extrêmement frustrant pour les conservateurs sociaux aux États-Unis, incluant dans la Maison-Blanche de Donald Trump, c'est que le cinquième vote qui a été décisif vient de nul autre que John Roberts.
Et c'est pas la première fois depuis quelques semaines. C'est en fait, tu me diras si tu es d'accord, Raphaël. J'ai comme l'impression que le juge en chef est en train de montrer qu'il n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Il est là pour le respect de la loi.
Et il est surtout là, Marie-Claude, pour ne pas que la Cour suprême fasse trop de vagues dans la société américaine de façon unilatérale. Et c'est là que je pense que c'est très pertinent de ta part de dire que c'est la troisième décision majeure de la sorte depuis le début du mois de juin. Ça, il faut le mettre en contexte. C'est pas juste aujourd'hui. Mm-hmm. On a eu un petit peu plus tôt en juin la décision sur l'interdiction de discriminer en lieu de travail sur la base de l'orientation sexuelle. Décision dans laquelle M. Roberts s'était joint à l'aile plus à gauche de la Cour. Après ça, on a eu une autre décision dans laquelle John Roberts s'est joint à l'aile plus à gauche de la Cour qui est venue empêcher à l'administration Trump de mettre fin au programme de l'administration Obama de protection des immigrants qui avaient traversé clandestinement la frontière alors qu'ils étaient mineurs. Et là, aujourd'hui, tu as cette décision-là sur l'avortement. Donc, oui, il y a un aspect juridique à ça, mais il y a aussi un aspect institutionnel et politique. C'est-à-dire que John Roberts, et ça, on le voit depuis des années, là, je pense que c'est évident depuis le début du mois de juin 2020, parce qu'en l'espace d'un seul mandat de la Cour, on va avoir eu plusieurs décisions qui illustrent ça. Mais ça fait longtemps, en fait, ça fait 15 ans à peu près qu'il est à la Cour suprême, et ça fait plusieurs années qu'on a des exemples du juge en chef qui est très récalcitrant à ce que la Cour suprême renverse, je dirais, ce qu'on pourrait considérer comme pratiquement des normes sociales, parce que l'avortement, c'est extrêmement complexe aux États-Unis. Parce que oui, c'est vrai que d'un côté, c'est souvent menacé au niveau de plusieurs restrictions qui sont passées par des États. Des restrictions qui, soit dit en passant, parfois sont jugées comme étant constitutionnelles. Mais ce qui est également vrai, c'est que t'as une nette majorité d'Américains. Les sondages sont super clairs là-dessus. Plus de 60% d'Américains encore à ce jour qui est en faveur de ce qu'on appelle Roe contre Wade, le fameux jugement de 1973.
L'original.
De la Cour suprême. L'original, c'est ça, qui est venu légaliser, là, à l'échelle nationale, l'avortement au début des années 70.
Ouais.
Et Roberts semble être très, très récalcitrant à ce que sa Cour, la Cour suprême, vienne renverser ça de façon unilatérale. Donc, on permet certaines restrictions tant que ça ne va pas trop loin et la loi de la Louisiane était jugée, tout au moins par la Cour suprême aujourd'hui, comme allant trop loin. Là.
Ouais. Est-ce que je me trompe ou John Roberts, le juge en chef, avait voté de l'autre côté en 2016? Dans un jugement sur l'avortement aussi important?
Et c'est là, c'est exactement là que je te dis que ça devient politique. C'est-à-dire que si c'était seulement une question juridique, on aurait pu s'attendre à ce que Roberts vote avec l'aile conservatrice. S'il avait été parfaitement conséquent, je te dirais, avec sa propre doctrine philosophique juridique, Il aurait dû, en principe, voter du côté conservateur. Or, il ne l'a pas fait. Donc, je suis ravi que tu poses la question parce que ça illustre à quel point les considérations de Roberts, pas seulement comme juge de la Cour, mais comme juge en chef de la Cour, vont au-delà de sa doctrine philosophique. C'est aussi une question institutionnelle.
Ouais.
Il craint pour la réputation de la Cour si elle est vue comme allant trop loin sur des questions sociales comme ça.
Oui, Raphaël, tu as vu aussi, tu as sûrement lu ça là, dans un des articles, il dit bon, qu'il avait soutenu la loi du Texas en 2016, mais il dit « Je continue à penser que c'était une mauvaise décision », a-t-il écrit dans une opinion jointe à la décision. Donc, il avoue lui-même qu'il était contre sa propre décision de 4 ans.
T'as tout compris. T'as tout compris.
C'est assez particulier.
C'est très particulier. Et rapidement, avant qu'on passe au prochain point, juste pour être sûr que tout le monde nous suit, c'est que le Texas, état voisin, soit dit en passant, de la Louisiane, là, avait lui aussi passé une loi très, très, très semblable à celle de la Louisiane, qui avait également été renversée par la Cour suprême. Donc là, on a deux décisions majeures dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire, évidemment, que les États vont arrêter de légiférer en matière d'avortement, mais ça veut dire que là, on vient quand même d'imposer certaines balises au-delà desquelles ça va être assez difficile pour les législateurs pro-vie d'aller. Là.
Bon. Et là-dessus, Raphaël, on a une petite minute pour parler d'une controverse, un tweet que le président Trump a publié, qu'il a dû supprimer. On essaie de dire que c'était une erreur, mais dans le fond, ça n'en était pas une.
Ben voyons donc. Écoute, l'erreur, en fait, c'est plus qu'une erreur. La tragédie, c'est la scène qu'on a observé qui était à la base du tweet. Tu as vu comme moi...
Disgracieuse, cette scène.
Ah, écoute!
Totalement.
Ça a lieu à The Villages, une communauté de retraités au centre de la Floride, à peu près une heure d'Orlando. Et tu as des personnes âgées qui se crient après des pro-Trump, des anti-Trump. Et on entend dans cette vidéo-là ceci. Gracious! Yeah, you got it, you!
White power! There you go, white power! You hear that? White power, le pouvoir
white
blanc. On en est
power.
Encore là.
Et le président des États-Unis qui appuie implicitement la vidéo et la partage. Je te laisse sur ceci, Marie-Claude. Tout le monde est horrifié, évidemment, à juste titre, par le cri « White Power ». Qu'est-ce que ça dit de la scène, même sans ce cri-là, de l'état du pays? Personnes âgées qui se hurlent après en pleine rue.
Ouais.
C'est ça le climat présentement aux États-Unis.
C'est pas très beau. Merci beaucoup, Raphaël Jacob. On te retrouve demain à la même heure. Ça a été très agréable. On s'arrête le temps des nouvelles. De retour tout de suite après pour parler, entre autres, de Facebook et de la pub qui lâche un petit peu ces jours-ci. Ça va leur coûter cher à suivre.